S'il vous plaît, on va passer au troisième intervenant. Donc nous allons accueillir maintenant Olivier Pareja, qui est militant et vice-président du groupe Versailles Yvelines de l'association France Solidarité Palestine, c'est ça ?
Dans les ordres,
c'est... Ok. Et nous avons Emeline Fago, qui est, elle, membre de l'Union juive française pour la paix en Palestine, c'est ça ? Et ils vont nous parler de la campagne de boycott et de désinvestissement, pardon, désinvestissement sanctions qui a été lancée par la société civile palestinienne.
Bonsoir. C'est assez impressionnant ce truc-là. Ok. Oui, donc nous, on est là pour vous parler du boycott, qui est donc une forme d'action non violente que tout le monde peut faire. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et donc, d'essayer d'expliquer... on n'a pas trop préparé. Donc, il y a des choses qu'on peut expliquer sur le boycott, d'où ça vient, ce qu'on peut faire, les différentes limites qu'il y a au boycott, les risques que peuvent prendre les gens qui appellent à boycotter ou les gens qui organisent des actions de boycott, les réussites, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, et puis les risques, mais qui sont un peu liés aussi à ce que je disais sur les limites. Donc le boycott, on pense tous à un qui a marché, entre guillemets, c'est celui sur l'Afrique du Sud. Donc, mais l'Afrique du Sud, ça a quand même pris de l'ordre de 40 ans, hein. Entre l'appel au boycott en 1950 et puis la fin de l'apartheid plutôt en 90, il y a quand même une très longue période. Et en plus, par rapport au cas de la Palestine dont on va vous parler, le boycott en Afrique du Sud était très relié par l'ONU, par exemple, qui avait appelé à ne pas... livrer des armes, livrer du pétrole, etc. à l'Afrique du Sud, ce qui n'est pas du tout le cas d'Israël aujourd'hui. Donc le boycott en Palestine, donc on ne va pas revenir sur la situation occupée de la Palestine d'aujourd'hui, on pourrait en parler, on en parle par ailleurs. Donc, ah oui, il faut peut-être que je dise un mot sur l'association France-Palestine Solidarité, puis peut-être tu voudras dire quelque chose... Donc l'association France-Palestine Solidarité, donc c'est une des plus grosses associations de solidarité avec la Palestine en France. Il doit y avoir 3 ou 4 000 adhérents au niveau national et une centaine de groupes locaux. Donc il y a un groupe local à Versailles pour les Yvelines. Il y en a un qui est peut-être en train de se créer à Trappes aussi. Et donc on a plusieurs types d'actions. On a des actions qui sont des actions de sensibilisation. Donc on va faire des conférences, on va faire venir des gens, on va faire des spectacles, etc. pour parler de la Palestine. On a des actions qui sont de type solidarité en allant là-bas. Donc en y allant nous, en emmenant des gens qui ont envie de voir la situation sur place. Généralement, c'est super parce qu'ils reviennent très militants. Donc parce qu'il suffit de voir ce qui se passe sur place, je pense, pour se dire... Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2010. Hein, j'y suis allé presque un peu par hasard. Et depuis, on ne peut pas se dire qu'on peut laisser une situation de colonisation dans cet état-là sans rien faire. Et puis la troisième chose qu'on fait aussi dans l'association, c'est des projets avec des Palestiniens. Donc par exemple, nous, on aide une association de la vieille ville de Naplouse, une association de femmes et d'enfants pour essayer de monter une ludothèque et une bibliothèque dans la vieille ville de Naplouse, donc en Cisjordanie. Voilà pour l'AFPS, si tu veux expliquer l'UJFP ou...
Ouais, je vais essayer d'être en une minute chrono, même pas, moins. Je ne sais pas si vous connaissez l'UJFP, très rapidement, c'est une association juive laïque progressiste qui existe depuis 1994. Elle a pour vocation, pour but en tout cas de... C'était trop près. Là, ça va ? Ok. Elle a pour vocation de porter une... Ah, comme ça. Super, très bien, merci. Je vais rester comme ça. Elle a pour vocation de porter une voix juive sur les conditions d'une paix juste et durable au Proche-Orient. En gros, pour schématiser, on voudrait montrer que le CRIF ne représente pas les juifs et que donc il y a une autre voix juive à exprimer aussi, notamment sur cette question. Et le deuxième pan de notre activité, c'est on est très impliqué dans le combat antiraciste et également dans la solidarité aux côtés des sans-papiers et aujourd'hui de ceux qu'on appelle les migrants, même si on préfère le terme exilés. Sur nos actions, en gros, on est très proche, on est sur le même type d'action que la FPS, donc voilà. Mais spécifiquement pour ce soir, on va parler donc de la campagne BDS que vous connaissez, j'imagine, pour certains d'entre vous, donc boycott, désinvestissement, sanctions. C'est vraiment, ce soir, la question, c'est les mobilisations citoyennes. C'est bon là pour le... Ouais. C'est vraiment un exemple très clair de mobilisation citoyenne, parce que déjà, c'est une campagne initiée par la société civile palestinienne en 2005. Donc c'est une demande qui émane des Palestiniens. Et nous, en tant que citoyens, en tant que société civile d'autres pays, je pense que c'est le meilleur moyen qu'on a aujourd'hui de lutter, parce qu'on se rend compte que nos pouvoirs publics, au mieux, sont inertes, au pire, sont complices de ce qui se passe là-bas, et que le changement ne viendra pas d'eux. Donc, à un moment donné, c'est à nous tous, finalement, d'essayer d'influer, d'essayer de faire quelque chose. Donc, la question, c'est comment ? Dans BDS, c'est vrai qu'il y a trois lettres. On parle souvent du boycott, on oublie un peu des investissements en sanctions, mais... On peut se focaliser sur le B, puisqu'on n'a pas énormément de temps, c'est déjà pas mal. La question, c'était... Bon, le boycott, on ne va pas vous expliquer ce que c'est pas la peine. Mais quels sont peut-être les avantages qu'on en a tirés, les inconvénients ? Je vais continuer, et puis tu compléteras. J'ai mes petites notes, je suis désolée, ce n'est pas très spontané. L'avantage de cette campagne, déjà, c'est que tout le monde peut facilement la rejoindre. C'est-à-dire qu'on peut... Il y a énormément de façons de soutenir cette campagne. Bon, évidemment, la première, c'est de ne pas acheter les produits qui viennent d'Israël. Bon, ça, c'est la première des choses. Quand on arrive à identifier qu'ils viennent d'Israël, puisque Israël, ayant vu cette campagne, essaie de brouiller les cartes, essaie de jouer sur les codes-barres pour noyer les produits qui viennent des colonies israéliennes, afin qu'on ne sache pas que ça vient des colonies, etc. Donc, de toute façon, il faut boycotter tout ce qui est israélien. Sinon, ça n'a pas de sens, je crois, de faire cette distinction. Ça n'a plus de sens en tous les cas. Alors, je te laisse nuancer ça, si tu veux.
Donc, effectivement, il y a dans les campagnes de boycott, il y a plusieurs niveaux. Donc ça, ce que vient de dire Emeline, c'est boycotter tous les produits palestiniens, tous les Israéliens. Ah non, mais c'est super compliqué, on s'y mélange. Non, boycotter tous les produits israéliens. Il y a aussi une forme de boycott qui est celle que, par exemple, la FPS... alors après, à titre individuel, chacun peut faire ce qu'il veut. Hein, mais moi, là, je vais vous dire, la FPS est sur une position plus soft, on va dire. C'est exclusivement le boycott des produits qui viennent des colonies israéliennes en Cisjordanie. Donc la Cisjordanie occupée, normalement, en fonction des conventions de Genève sur les territoires occupés, ne peut pas faire l'objet d'une exploitation économique. Or, donc, les produits qui viennent de Cisjordanie, ceux qui sont marqués « Made in Israel », sont totalement illégaux en France, et ça, c'est reconnu. Et très récemment, il y a la semaine dernière, au journal officiel, il y a eu un rappel sur le fait que normalement, les pays devraient être étiquetés. Donc, fabriqués en Cisjordanie, entre parenthèses, colonie israélienne, ou fabriqués en Cisjordanie, entre parenthèses, palestinien. Voilà. Donc ça devrait être fait, et ça a été fait en 2009, par exemple, au Royaume-Uni. Donc, et depuis, il y a beaucoup de produits qui étaient marqués « faits dans les colonies » qui ont été déréférencés dans les supermarchés parce que les gens commencent à se poser des questions. Donc c'est en ce sens-là où le boycott, c'est quelque chose qui peut très très bien marcher si tout le monde se mobilise. Alors peut-être pas de manière systématique surtout, mais avec des campagnes ciblées. Par exemple, Orange a fait l'objet d'une campagne il y a un ou deux ans. On avait nous-mêmes à Versailles été distribuer des tracts devant les magasins Orange à Versailles. Et Orange avait un partenariat avec une entreprise israélienne qui s'appelait Partenaire Communication, quelque chose comme ça. Et à force que... Alors là, ce n'était pas vraiment une opération de boycott au sens où on n'appelait pas directement à ne plus acheter son téléphone ou je ne sais pas quoi chez Orange, mais on appelait l'entreprise Orange. Donc là, c'est plutôt dans la partie dans BDS, la partie désinvestissement. On appelait Orange à arrêter ces partenariats économiques avec l'entreprise israélienne. Et ça a marché. Orange s'est retiré. Il y a aussi une entreprise israélienne, irlandaise de BTP qui récemment s'est retirée aussi d'Israël. Il y a aussi l'histoire du tramway Veolia qui n'est plus exploité par Veolia et qui a été retransmis à une entreprise israélienne. Donc là aussi, c'est des opérations de boycott qui ont marché et qui font qu'au bout d'un moment, la pression publique fait que les grandes entreprises abandonnent pour ne pas nuire à leur image ou ne pas perdre des marchés. Par exemple, il y a aussi une entreprise de sécurité, G4S ou quelque chose comme ça, qui est une grosse boîte de sécurité. Je ne sais pas si on en a beaucoup en France, mais en tous les cas, qui a perdu des marchés dans certains pays parce qu'il y a des pays qui vont jusqu'à dire non, on ne veut pas, nous, de... Ok, on va bientôt arrêter. Donc, tiens, je te repasse la parole.
Juste pour information, G4S, c'était il y a 2 jours, hein, je crois, qu'ils ont annoncé que c'est, ça y est, c'était effectif. Pourquoi ? C'est particulièrement important parce que G4S vend des biens et des services aux prisons israéliennes. Donc c'était directement complice. Ouais, il y a HP aussi, pour votre information, hein, qui vend un certain nombre de ses produits et de ses services et qui sont utilisés aux checkpoints israéliens. C'est-à-dire que les checkpoints, c'est un instrument direct, évidemment, d'apartheid, d'oppression, et c'est une entrave claire aux droits de l'homme tous les jours. Ce qu'on n'a pas redit, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est ça qu'il faut dire. Et quand les gens bloquent un peu sur cette question, disent « mais finalement, ça veut dire qu'en fait, vous êtes contre les Israéliens », non, c'est pas ça. On veut le respect du droit international. On veut le respect du droit. Il n'y a pas de raison qu'on respecte les droits des Israéliens, qu'on ne respecte pas les droits des Palestiniens. Donc c'est une campagne antiraciste et c'est une campagne qui a un objectif clair, l'application du droit. Donc ça, je pense qu'il est important de le rappeler. Je voulais donc dire tout à l'heure que comment on peut agir et pourquoi finalement c'est une campagne qui fonctionne et qui est motivante en tant que militant. C'est parce que donc, c'est facile d'agir, donc déjà en boycottant. Moi, je suis pour un boycott total parce que je considère qu'on ne peut pas distinguer Israël des colonies aujourd'hui, mais à la rigueur, on n'a pas le temps pour ce débat, ok. Et finalement, c'est aussi l'occasion, et je pense que c'est ça qui est intéressant, d'échanger avec la population en général qui n'est pas forcément informée, soit quand on fait une action devant un magasin, soit par exemple, moi, quand je vais chez mon pharmacien, sachez que l'entreprise Teva, c'est la plus grosse entreprise de générique et c'est une entreprise israélienne. On a quasiment tous chez nous des médicaments Teva, c'est israélien. Et donc, moi, j'achète plus Teva. J'ai une petite truc sur ma carte vitale qui dit Teva, j'en veux pas. Et à chaque fois que je vais chez mon médecin, mon dentiste, mon pharmacien, il le voit. Et donc, c'est l'occasion d'échanger. Et donc, moi, plusieurs fois, ça m'arrivait de dire à des pharmaciens, est-ce que vous avez autre chose ? Donc, si parfois ils n'avaient pas Teva, je leur ai dit, bah, désolé, je vais ailleurs. Alors, évidemment, moi, toute seule, je ne vais pas changer la donne. Mais l'idée, c'est que ça, c'est un moyen facile qu'on a tous, si c'est évidemment, si ça se répand, d'agir. On voit qu'il y a des succès, et des succès, il y en a de plus en plus. C'est pour ça que c'est super motivant, et ça, c'est clairement un des avantages qu'on en retire, parce que tout le monde peut faire quelque chose. Autre exemple, le boycott n'est pas qu'économique, il faut le dire. Le boycott, il est universitaire, il est culturel, il est sportif. La question des artistes, la question du boycott culturel, elle est importante, parce qu'Israël joue la carte de l'État moderne, occidental, gay-friendly, ce qui est une vaste arnaque, pour essayer de se blanchir de ces crimes contre les Palestiniens. Et donc, quand un artiste veut se produire en Israël, il est très facile, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, c'est génial, de lui écrire, par exemple, en lui disant, s'il vous plaît, n'allez pas jouer en Israël, parce que ça normalise une situation qui est anormale. Par exemple, Laurie Neal, je crois que c'était l'an dernier, ou il y a 2 ans, devait se produire en Israël. Il y a eu une immense campagne. Moi, je sais que perso, moi aussi, j'ai mis, comme des dizaines d'autres personnes, sur sa page Facebook, un mot. Je lui ai dit, s'il te plaît, Laurine, en tant que militante juive, ça n'est pas une question de racisme. Je te demande de ne pas aller jouer en Israël, blablabla. Bla, 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 bla. Et je crois que 48 heures avant le concert, en gros, elle a dit, je ne peux pas y aller, j'ai piscine. Enfin, voilà. Donc, évidemment, elle a pas dit que c'était sous la pression qu'elle avait lâché, mais c'est évidemment ça qui s'est passé. Et à un moment donné, le but pour qu'un boycott fonctionne, et c'est pour ça que ça a marché en Afrique du Sud, c'est de faire pression. Et c'est un mouvement qui est non-violent, donc les gens qui essaient de nous décrédibiliser en nous disant « oui, mais c'est un mouvement antisémite », non, pas du tout, c'est non-violent, c'est la seule arme citoyenne que l'on ait pour agir, et ça fonctionne, puisque des succès, on en a de plus en plus. Donc voilà, je trouve que c'est très motivant et que c'est facile pour n'importe qui, ne serait-ce qu'en se disant « je regarde d'où viennent mes fruits », et je m'arrête. Et voilà, merci.
Des questions parce que c'est... Ça peut pénaliser. C'est bizarre, ça. Si, ça fait plus. Voilà, d'accord. Donc, effectivement, ça peut pénaliser. Mais même les Palestiniens aussi, hein, ça peut les pénaliser. Par exemple, il y a eu une campagne de boycott contre l'entreprise de SodaStream qui était installée dans des colonies en Cisjordanie et qui a déménagé maintenant dans le désert du Negev, où on peut aussi se poser des questions sur l'occupation du désert du Negev, mais en tous les cas, et ça a fait perdre des emplois aux Palestiniens qui travaillaient dans cette usine-là à côté de chez eux, quoi. Donc c'est sûr, mais même en Afrique du Sud, en Afrique, je sais plus qui disait on subit l'apartheid avant de mourir ou de subir le boycott. C'est d'abord de ça qu'on meurt. Et donc, à un moment, l'appel BDS a été lancé, comme l'a dit Emeline, en 2005 par 170 organisations de la société civile palestinienne. Donc oui, ça a des conséquences, mais c'est une forme de pression qui est quand même relativement efficace. Et quand on voit la façon dont le gouvernement israélien réagit, par exemple, ce que je disais tout à l'heure là, sur le rappel de la direction... de la consommation et de la répression des fraudes, là, sur le fait qu'il ne faut pas étiqueter Made in Israel des choses qui viennent de Cisjordanie et qu'il faut les... Tout de suite, le gouvernement israélien fait une déclaration, commence à traiter la France d'antisémite, etc. C'est la preuve, une réaction aussi violente de leur part montre bien que ça a quand même un effet qui est super important.
Très rapidement, ce que je pense, c'est merci d'avoir posé cette question, ça donne l'occasion de dire ce qu'on n'a pas eu le temps de dire avant. Il faut savoir que le mouvement BDS est repris par des Israéliens juifs eux-mêmes. Ça s'appelle le boycott from within, donc le boycott de l'intérieur. Et donc ce sont des militants israéliens qui nous demandent de boycotter Israël et nous demandent de boycotter leur État en nous disant, nous à l'intérieur, la société israélienne, un peu à l'image de nos sociétés, est complètement en train de se fasciser, mais c'est même encore plus flagrant encore en Israël, c'est extrêmement violent comme société. Si vous êtes solidaire des Palestiniens, si vous êtes noir, etc., vous êtes menacé, voire parfois tué. Donc c'est extrêmement violent. Et donc, eux nous disent, on n'arrive pas, nous, à peser suffisamment fort pour changer les choses. Donc on a besoin d'une pression de l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose. C'est une demande aussi qui vient des Israéliens. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, si ça pénalise les Israéliens, alors je ne parle pas en tant qu'individu, bien sûr, mais collectivement, bah, peut-être, oui, économiquement, ceux qui travaillent pour les sociétés. D'accord, sauf qu'à un moment donné, la situation est actuelle, elle pénalise tous les Palestiniens. Et donc cette occupation, elle a un coût, sauf que le coût n'est pas payé par les Israéliens, il est payé tous les jours par les Palestiniens. Donc ça, il faut que les Israéliens le comprennent. Parce que pour beaucoup d'entre eux, moi j'ai une copine qui vit à côté de Tel Aviv, qui n'est pas du tout politisée, et j'ai essayé de lui parler, elle me dit « Mais tu sais, moi, je les déteste pas, je veux juste vivre ma vie, avoir mon entreprise, élever ma fille, et c'est tout. » Ouais, mais parce que toi, tu peux le faire. Mais à cause de la façon dont tu vis, et à cause des gens qui sont au pouvoir, et tu votes pour ces gens, tous les Palestiniens ne peuvent pas le faire. Donc il faut aussi que les Israéliens ouvrent les yeux et comprennent que leur quotidien, il a un coût et que ce n'est pas eux qui payent ce prix. Et ça n'est pas, pour terminer, précision importante, le mouvement, je suis désolée, mais bon, ce n'est pas contre les individus israéliens. Souvent, le boycott culturel est mal compris. Les gens disent, mais ça veut dire que ce n'est pas juste, ça veut dire qu'un artiste israélien, vous l'empêchez, mais pas du tout. Les artistes israéliens qui veulent faire des concerts, il n'y a aucun problème, ils ne seront jamais boycottés. Les gens qui appellent à ça n'ont pas compris ce que c'était que la campagne BDS. Par contre, les gens qui sont sponsorisés par le ministère de la Culture israélienne ou des institutions étatiques israéliennes, oui. Mais ce ne sont pas les individus qu'on boycotte. Je voulais en profiter pour le redire, je crois que c'est important.
Oui, ça n'a pas changé ça.
Le fait de participer à une campagne de boycott, pas sur les réseaux sociaux, mais activement sur le terrain, est-ce qu'il y a une répression par rapport à ça ? Est-ce qu'ils pensent que c'est légal ou illégal ? Parce que ces personnes
alors,
ont été interdites de partir du
territoire. Alors, le boycott en France est légal. On peut appeler à boycotter. Le problème, c'est le pourquoi on appelle à boycotter. Et à partir du moment où on appelle à boycotter pour de la discrimination, si c'est un appel à la discrimination, que ce soit sexuelle, raciale, religieuse, etc., ça, c'est répressible par la loi. En fait, appeler à boycotter en disant « j'appelle à boycotter un produit israélien pour faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il change de politique », ça, c'est pas répressible par la loi. Mais simplement, il y a un truc qui est quand même super ambigu, sur lequel il y a eu pas mal de jugements. Alors, il y a des jugements un peu dans les deux sens. Mais les derniers qui sont ceux de la Cour de cassation, donc qui est quand même la plus haute juridiction française en 2015, sont plutôt à dire que les appels au boycott sont des appels à la discrimination et donc sont aujourd'hui plutôt pénalisables. Donc ça, c'est super limite comme truc. Mais il n'y a pas de raison, en particulier, il n'y a pas de jurisprudence dans un sens et qui ne pourrait pas être cassée par une autre. Et donc, il y a une chose qu'il faudrait arriver à faire, c'est qu'il y ait suffisamment de procès dans les cours d'appel qui repassent à la Cour de cassation, de façon à ce qu'il y ait un vrai jugement de la Cour de cassation. Et les copains qui sont passés à la Cour de cassation en 2015, là, qui sont de Mulhouse, je crois, Mulhouse ou Besançon, je ne sais plus, enfin, En plus, moi, je les avais croisés. Enfin, c'est des gens qui sont, comme nous, des militants, et plutôt des militants des droits de l'homme, des militants antiracistes, etc. Et se faire accuser eux-mêmes d'être racistes, d'être antisémites, de prôner l'appel à la discrimination, c'est quand même, personnellement, super difficile à supporter. Mais donc, ces copains-là ont fait appel auprès de la Cour européenne de justice, en espérant que la Cour européenne de justice puisse faire une espèce de jurisprudence qui fasse qu'on se dise que oui, c'est autorisé d'appeler à boycotter pour des raisons politiques, pas pour des raisons religieuses, pas pour des raisons, etc. Donc il y a des jugements un peu dans tous les sens. Il y a des copains à Metz là, qui vont passer au tribunal de grande instance de Metz là, au mois de janvier. Bon, c'est quand même... C'est quand même un peu limite comme boycott. Hein. C'est très, très mal utilisé par toute la justice française. Il n'y a quand même que deux pays au monde où on pénalise le boycott. C'est Israël et la France. C'est quand même dramatique. Enfin, c'est dramatique pour notre démocratie. Et ça ne s'est pas arrangé. Hein. Les circulaires à Lyon-Marie qui font que quand... Qui demande au procureur de faire appel s'il y a un jugement en faveur des boycotteurs, par exemple, donc qui demande n'a pas été aboli, ni même par tous les ministres qu'il y a eu depuis, dont certains soi-disant de gauche.
Oui, j'ai peu de choses à rajouter, si ce n'est que je crois que la nuance se fait est sur le fait que le boycott est légal, mais que l'appel au boycott ne l'est pas forcément reconnu comme tel. Mais en effet, c'est quelque chose d'aberrant. Et je crois même qu'Amnesty International avait fait publié un communiqué en disant qu'il fallait arrêter de poursuivre les gens qui appellent au boycott puisque c'était totalement citoyen, c'est ce qu'il y a de plus citoyen. Et c'est, je veux dire, le boycott, c'est vraiment la forme non violente d'action politique. Donc comment on peut reprocher à des gens de choisir la non-violence, de choisir une action citoyenne? Et en plus, si on va sur le site web de la campagne BDS, on lit entre guillemets leur charte. C'est une charte clairement antiraciste et qui précise bien que c'est une charte qui s'oppose à l'antisémitisme, etc. Donc... quelque part, c'est inattaquable. Mais en France, c'est vrai que c'est un sujet très compliqué. Il y a énormément... Et c'est vrai que les décisions de justice qui sont tombées n'ont pas forcément toujours été dans le même sens. C'est pour ça aussi que c'est important, s'il y a des pétitions qui circulent ou ce genre de choses, de les signer et de montrer qu'il y a une adhésion populaire à cette campagne et qu'on n'est pas dupe et que ce n'est pas une campagne antisémite et que c'est juste l'exercice d'un droit citoyen le plus légitime qui soit parce que, à nouveau, ils demandent quoi? Ils demandent juste qu'on respecte le droit. Donc, voilà.
Je parle ça parce que quand on arrive sur la surface, on trouve des gens de français avec le drapeau français, mais on trouve aussi à côté, il n'y en a pas, il y a des analphabètes, il y a des gens qui ne veulent pas acheter, mais qui finissent par acheter.
Effectivement. Mais déjà sur l'étiquetage, hein, si déjà on mettait les produits des colonies, ça serait énorme. Et juste, je voulais dire par rapport à ce que disait Emeline, on a parlé de B, de D, donc boycott, désinvestissement et sanctions. Et donc là, il y a en ce moment une campagne qui est importante et qu'on vous encourage tous à aller signer, qui est pour suspendre ou arrêter l'accord d'association économique entre l'Union européenne et Israël. Et donc c'est une campagne qui a démarré il y a un mois, je crois, ou à peine, et qu'il faudrait aller signer maintenant parce que Israël a des accords économiques avec l'Union européenne, alors que normalement, dans la charte de l'Union européenne, les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui colonisent d'autres pays, qui internent de façon tout à fait arbitraire et très longue, par exemple. Mais je ne sais pas s'il y a un accord d'association avec l'Arabie saoudite. Par contre, avec Israël, il y a un accord d'association, comme par exemple Israël fait partie des fédérations sportives européennes, des choses de ce type-là. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est la partie S de BDS sur laquelle... Et juste pour répondre à ta question quand même sur les produits que tout le monde n'est pas obligé de connaître, donc sur le site BDS, il y a bien la liste de tous les produits en expliquant quelle marque, etc. Mais c'est une première réponse. Voilà. Et quand nous, on va mettre des post-it sur les produits ou mettre des drapeaux chez Carrefour, ça, c'est pas non plus tout à fait accepté.
Sur la remarque sur l'Arabie saoudite, alors il y a des gens souvent qui me disent « Mais pourquoi vous faites ça contre Israël ?» Quelque part, je pense que les gens ont envie de manger du fromage. Mais je comprends. Il y a souvent des gens qui nous disent, et c'est un des reproches, des gens plus ou moins...
bien attentionnés.
qui ont déjà plus ou moins une opinion tranchée sur la question, nous disent, mais quelque part, c'est quand même bizarre, vous acharnez contre Israël, vous faites rien contre l'Arabie Saoudite, Israël n'est pas le seul pays qui viole les droits de l'homme. Malheureusement, il y a tellement d'exemples de pays qui violent les droits de l'homme, je suis bien d'accord. Mais la campagne BDS est une campagne, c'est, en fait, nous, quand on fait la campagne BDS, quand on y participe, on répond à l'appel de la société civile palestinienne. Si demain, il y a un appel de Saoudiens qui nous demandent de les soutenir, on les soutient.